4. Répète-le-lui. Il faut qu'il n'y ait aucun malentendu et pas de faiblesse comme il en a déjà eu. Roland se pencha jusqu'à ce que leurs deux visages soient tout près de se toucher, leur nez à 1 millimètre l'un de l'autre. « Cette fois-ci, vous chanterez la chanson jusqu'au bout. Vous écrirez l'histoire jusqu'au bout. Est-ce que vous intuitez vraiment ?»
Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, fit King d'une voix rêveuse. J'aimerais pouvoir écrire une fin de ce genre.
Et moi donc? Et c'était bien ce qu'il souhaitait le plus au monde. En dépit de son chagrin, le temps des larmes n'était pas encore venu. Ses yeux étaient comme deux pierres brûlantes dans sa tête. Peut-être les larmes viendraient-elles plus tard, quand ce qui s'était produit ici commencerait à lui apparaître dans toute sa réalité et son ampleur.
« Je ferai ce que vous dites, pistolero. Peu importe comment tournera le récit quand les pages viendront à manquer. »
La voix même commençait à manquer à King. Roland se dit qu'il sombrerait bientôt dans l'inconscience.
« Je suis désolé pour vos amis. Sincèrement, je le suis. »«
Merci, » dit Roland, réprimant difficilement la pulsion d'attraper la gorge de l'écrivain à pleine main et de serrer jusqu'à ce que mort s'en suive. Il se releva, mais King ajouta quelque chose qui l'arrêta net.
« Vous l'avez cherché ?»«
Son chant à elle, comme je vous avais dit de le faire ?»«
Le chant de Susanna ?»«
Je... oui. » Et alors King se força à se redresser sur un coude, et bien qu'à l'évidence il n'ait plus beaucoup de force, sa voix s'éleva, claire et distincte.
« Elle a besoin de vous, et vous d'elle. Maintenant, laissez-moi tranquille. Gardez votre haine pour ceux qui la méritent vraiment. Je ne suis pas plus responsable de votre cas que je ne le suis de Gan ou du monde, et nous le savons tous les deux. » Laissez ces enfantillages derrière vous, et votre chagrin aussi, et faites ce que vous voudriez que je fasse. »
La voix de King monta en un cri rauque. Il attrapa le poignet de Roland et le serra avec une force incroyable. « Finissez le travail !» Lorsque Roland essaya de répliquer, rien ne lui vint d'abord. Il dut commencer par s'éclaircir la gorge. « Dormez, Sai. Dormez et oubliez tout le monde présent ici, sauf l'homme qui vous a renversé. »
Je marchais et ce type m'a renversé.
Il n'y avait personne d'autre ici. Ni moi, ni Jake, ni cette femme.
Personne d'autre, acquiesça King. Juste moi et lui. Il dira la même chose?
« Oui, là. Bientôt vous dormirez très profondément. Plus tard, vous ressentirez peut-être la douleur, mais pour l'instant, vous ne sentez rien. »«
Pas de douleur pour l'instant. Dormir profondément. »
La silhouette tordue de King se détendit sur son lit d'aiguilles de pin. « Cependant, avant de vous endormir, écoutez encore un instant, » ordonna Roland.
« J'écoute.
Une femme viendra peut-être à... Attendez une seconde. Est-ce qu'il vous arrive de rêver que vous faites l'amour avec des hommes ?»«
Vous me demandez si je suis gay ? Un homosexuel refoulé, peut-être ?»
fit King d'une voix lasse mais amusée. « Je ne sais pas. » Roland te marqua une pause. « J'imagine, oui. »
La réponse est non. Il m'arrive de rêver que je fais l'amour avec des femmes. Un peu moins maintenant en vieillissant, et peut-être plus du tout pour un bon moment désormais. Cette espèce de con m'a vraiment bousillé.
Pas autant qu'il a bousillé mon garçon, pensa Roland avec amertume, mais il ne dit mot. Si tu ne rêves que d'amour avec des femmes, alors c'est une femme qui viendra peut-être à toi. »
Vous dites ainsi ? King avait l'air vaguement intéressé.
« Oui, si elle vient, elle sera ravissante. Elle vous parlera du plaisir et du réconfort qui vous attendent dans la clairière. Elle se fera peut-être appeler Morphine ou Morphia, fille du sommeil, ou encore Séléna, fille de la lune. Elle vous offrira son bras et proposera de vous y conduire. Vous devrez refuser. »
Je devrais refuser.
Même si vous êtes tenté par ses yeux et par ses seins.
Même,
acquiesça King. Et pourquoi refuserez-vous, Sai?
Parce que le chant n'est pas terminé.
Rallant se sentit enfin satisfait. Madame Tassenbaum était agenouillée près de Jake.
Le pistolero les ignora tous deux et se dirigea vers l'homme, assis au volant de son chariot à moteur, celui qui avait causé tous ses dégâts. L'homme avait les yeux vides et écarquillés, et la mâchoire qui pendait mollement. Un filet de bave dégoulinait de son menton mal rasé.
« Vous m'entendez, Sai ?»
L'homme hocha la tête d'un air craintif. Derrière lui, les deux chiens s'étaient tus. Deux paires d'yeux brillants fixèrent le pistolero de l'arrière du véhicule.
« Comment vous appelez-vous ?»«
Brian, si cela vous sied. Brian Smith. »
Non, cela ne lui seyait pas du tout.
Encore un qu'il aurait aimé étrangler. Une autre voiture passa sur la route et cette fois-ci, la personne au volant klaxonna au passage.
Quelle que fût leur protection, elle n'allait pas tenir très longtemps. « Sai Smith, tu viens de renverser un homme avec ta voiture, ton camiobile, quel que soit le nom que tu lui donnes. »
Brian Smith se mit à trembler des pieds à la tête.
« J'ai jamais eu le moindre PV. » gémit-il. « Et voilà que je me retrouve à renverser le type le plus connu de tout l'État. C'est mes chiens, se battaient. »
« Ce ne sont pas vos mensonges qui me mettent en colère, » le coupa Rolland, « mais la peur qui les provoque. Ferme donc ta bouche. »
Brian Smith obéit. Lentement, son visage tournait au blanc cireux.
Vous étiez seul quand vous l'avez heurté. Personne d'autre ici que vous et le compteur. Vous comprenez?
J'étais seul. Monsieur, est-ce que vous êtes un entrant?
Peu importe ce que je suis. Vous êtes allé vérifier qu'il était toujours en vie.
Toujours en vie, super, fit Smith. J'ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Sérieux!
Il vous a parlé. C'est comme ça que vous avez su qu'il était en vie.
Oui,
dit Smith le sourire aux lèvres. Puis, fronçant les sourcils,
et qu'est-ce qu'il a dit?
Vous avez oublié. Vous étiez nerveux et affolé.
Affolé et nerveux. Nerveux et affolé, pour sûr.
Maintenant, reprenez le volant. Et alors, vous vous réveillerez petit à petit. Et quand vous arriverez à une maison ou à une boutique, vous direz qu'il y a un homme blessé sur la route. Un homme qui a besoin d'aide. Répétez et soyez sincère.
Je reprends le volant.
Il caressa le dit volant comme s'il avait déjà hâte d'être parti. Rolland se doutait que c'était le cas.
Je me réveille petit à petit. Quand j'arrive à une maison ou à une boutique, je leur dis que Stephen King est blessé sur le bord de la route et qu'il a besoin d'aide. Je sais qu'il est en vie parce qu'il m'a parlé. C'était un accident.
Il marqua une pause.
Pas ma faute. Et il marchait sur la route.
Nouvelle pause.
Sûrement.
Après tout, est-ce que ça m'importe vraiment sur le dos de qui tout ce bazar retombe ?
Se demanda Rolland. À la vérité, il s'en moquait. Quoi qu'il en soit, King se remettrait à écrire. Et Rolland espérait presque que ce serait lui qui paierait, parce que tout était sa faute. Il n'avait rien à faire là, de toute manière. « Partez maintenant, » ordonna-t-il à Brian Smith. « Je ne veux plus vous voir. » Smith fit démarrer sa camionnette avec un air de profond soulagement. Roland ne prit pas la peine de le regarder s'éloigner. Il se dirigea vers Madame Tassenbaum et tomba à genoux à côté d'elle. Otte s'était assis près de la tête de Jack. Le bafouilleux s'était tu, sachant que ses gémissements ne seraient plus entendus de celui qu'il pleurait. Ce que le pistolero craignait le plus au monde s'était finalement produit. Tandis qu'il parlait à deux hommes qu'il méprisait, le garçon qu'il aimait plus que tout, plus que quiconque dans sa vie, même Suzanne Delgado, avait péri sous ses yeux pour la deuxième fois. Jake était mort. 5. Il vous a parlé, dit Roland. Il prit Jake dans ses bras et se remit à le bercer doucement, d'avant en arrière. Les rizas teintaient dans leur sac. Il sentait déjà le froid envahir le corps du garçon.
Oui.
Qu'a-t-il dit?
De revenir vous chercher quand le travail ici serait fini. Ce sont ses mots exacts. Et puis il a murmuré « Dites à mon père que je l'aime. »
Roland émit un son déchirant, étouffé et désespéré, qui remonta du plus profond de sa gorge. Il se rappela à Fédic, juste après qu'ils avaient passé la porte.
« Aïe, père !»
avait dit Jake. Roland l'avait pris dans ses bras alors. Sauf qu'à ce moment-là, il avait senti battre le cœur du garçon. Il aurait tout donné pour le sentir battre à nouveau.
« Ce n'est pas tout, » ajouta-t-elle. « Mais avons-nous le temps maintenant, surtout si je peux vous le dire plus tard ?»
Roland comprit immédiatement où elle voulait en venir. L'histoire qu'allaient raconter Brian Smith et Stephen King était toute simple. Elle ne prévoyait pas la présence d'un vagabond efflanqué avec un gros pistolet ou d'une femme aux cheveux grisonnants. Encore moins d'un enfant mort avec un sac rempli de plats affûtés et une mitraillette dans la ceinture de son pantalon. La seule question était de savoir si oui ou non cette femme allait revenir. Elle n'était pas la première qu'il avait réussi à amener à faire des choses qu'elle n'aurait pas faites en temps normal. Mais il savait que la situation pourrait lui apparaître différemment une fois qu'elle ne serait plus en présence du pistolero. Lui demander sa parole.
Jurez-vous de revenir me chercher, Sai? Le jurez-vous sur le cœur arrêté de ce garçon?
N'était pas la bonne solution. Elle pouvait être très sincère sur le coup et y réfléchir à deux fois à passer la première colline. Pourtant, quand il avait eu l'occasion d'emmener l'épicier à qui appartenait le camion, il ne l'avait pas fait. Il n'avait pas non plus choisi le vieillard qui tondait la pelouse chez l'écrivain. Plus tard, ça ira. Pour l'heure, dépêchez-vous de partir. Si pour une raison ou pour une autre, vous sentez que vous ne pourrez pas revenir, je ne vous en voudrai pas.
Où vous iriez tout seul?
Demanda-t-elle.
Comment sauriez-vous où aller? Ce n'est pas votre monde, n'est-ce pas?
Roland ignora la question. Si quand vous revenez la première fois, il y a encore du monde, agent de la paix, garde du guet, d'eau bleue, je ne sais pas, passez sans vous arrêter. Revenez une demi-heure plus tard. S'ils sont toujours là, ne vous arrêtez pas, continuez comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne.
Est-ce qu'ils remarqueront mon manège?
Je ne sais pas. D'après vous? Elle réfléchit un instant, puis, souriant presque,
« Les flics? Dans ce bled? Sans doute pas. »
Il hocha la tête, convaincu par son raisonnement. « Quand vous aurez l'impression que la voie est libre, arrêtez-vous. Vous ne me verrez pas, mais moi je vous verrai. J'attendrai jusqu'à la nuit. Si alors vous n'êtes pas revenu, je m'en irai. »
Je reviendrai vous chercher, mais pas dans cette misérable guimbarde qu'ils osent appeler une camionnette. Je serai au volant d'une Mercedes-Benz S600,
annonça-t-elle avec une pointe de fierté. Roland n'avait aucune idée de ce qu'était une Mercedes-Benz, mais il acquiesça comme s'il voyait de quoi il s'agissait.
« Partez, nous parlerons plus tard, quand vous serez revenu. »«
Si vous revenez, » se dit-il.
« Je pense que vous aurez besoin de ceci, »
dit-elle en glissant le revolver de Roland dans son holster.
« Grand merci, Sai. »
« Je vous en prie. »
Il la regarda retourner jusqu'au vieux camion, dont il était certain qu'elle s'était mise à bien l'aimer malgré son discours méprisant, et se hisser sur le siège côté conducteur. Et en la regardant, il comprit qu'il lui manquait quelque chose, et que ce quelque chose pourrait bien se trouver dans le camion. « Eh oh !» Madame Tassenbaum avait déjà la main sur la clé de contact. Elle suspendit son geste et adressa un regard interrogateur au pistolero. Roland reposa Jack avec précaution sur la terre dans laquelle il allait bientôt être enseveli. Et c'est cette pensée qui lui avait fait rappeler Madame Tassenbaum. Et se releva. Il grimaça et porta la main à sa hanche, mais c'était le fait de l'habitude. Il ne ressentait aucune douleur.
« Quoi ? »
demanda-t-elle en le voyant approcher.
« Si je ne pars pas au plus vite, autant ne pas partir du tout. »«
Oui, je sais. »
Il inspecta l'arrière de la camionnette. Au milieu des outils éparpillés, il distingua une forme carrée sous une bâche bleue. Les bords de la bâche étaient repliés sous l'objet pour éviter qu'il éclate. Lorsque Roland dégagea la bâche, il vit 8 ou 10 boîtes de ce gros papier raide qu'Eddie appelait du « carton ». Elles étaient assemblées pour former un cube. L'image imprimée sur le dessus lui révéla qu'elles contenaient des boîtes de bière. Il n'aurait pas pris plus de soin s'il s'était agi d'explosifs ultra-sensibles. C'était la bâche qu'il voulait. Il recula du camion avec le tissu dans les bras et lança «
Maintenant, vous pouvez y aller ».
Elle fit tourner la clé mais ne démarra pas immédiatement.
« Monsieur... « Je voulais vous dire toutes mes condoléances. Je vois bien que ce garçon représentait pour vous. »
Roland Deschaine inclina la tête, mais ne dit rien. Irène Tassenbaum le fixa encore quelques secondes, se remémora cette évidence, que les mots étaient parfois bien inutiles, puis fit démarrer le moteur en claquant sa portière. Il la regarda reprendre la route. Elle avait désormais une maîtrise parfaite de l'usage de l'embrayage. Amorçant un tournant raide pour reprendre la direction du nord vers East Stoneham. Toutes mes condoléances. Et il se retrouvait seul avec son deuil. Seul avec Jack. Pendant une seconde, Roland resta debout à contempler le petit bosquet longeant la grande route, à contempler aussi 2 des 3 êtres qui s'étaient retrouvés là. Un homme, inconscient, et un garçon, mort. Roland avait les yeux secs et brûlants. Il les sentait battre dans ses orbites, et il crut qu'il avait de nouveau perdu la faculté de pleurer. Il trouva cette idée horrifiante. S'il était incapable de verser la moindre larme après tout ça, après avoir tout regagné, puis tout reperdu. À quoi bon? Aussi, ce fut pour lui un immense soulagement lorsqu'elles vinrent enfin. Elles coulèrent de ses yeux, venant apaiser cet éclat d'un bleu presque dément. Elles dévalèrent ses joues sales. Il pleura presque en silence, pourtant il y eut un sanglot, et Othé l'entendit. Il leva la truffe vers le couloir de nuages fuyant à vive allure et poussa un seul hurlement. Puis il se tut, lui aussi. 6. Ôté à ses talons, Roland porta Jack dans les bois. Que le bafouilleux sanglota lui aussi n'était pas pour surprendre Roland.
Il l'avait déjà vue pleurer auparavant. Et l'époque à laquelle il croyait que les démonstrations d'intelligence et de compassion d'Othée n'étaient sans doute rien de plus qu'un don d'imitation était révolue depuis bien, bien long. Ce qui occupait surtout l'esprit de Roland et accompagnait ses quelques pas, c'est une prière pour les morts qu'il avait entendu dire à Cuthbert, lors de leur dernière campagne ensemble, celle qui s'était achevée à Jericho Hill. Il doutait que Jake eût besoin d'une prière pour l'accompagner là-haut, mais le pistolero avait besoin de s'occuper l'esprit qu'il ne sentait pas très vaillant en cet instant. S'il s'aventurait trop loin dans la mauvaise direction, il se briserait certainement. Peut-être plus tard pourrait-il céder à l'hystérie, ou même à l'Irina, la folie qui soigne. Mais pas maintenant. Il ne romprait pas maintenant. Il ne laisserait pas la mort de cet enfant ne rimer à rien. L'éclat vert et or qu'on ne retrouve à l'été que dans les forêts, et les vieilles forêts encore, comme celles que parcourait l'ours Chardic, se fit soudain plus profond. Il se glissait au travers des arbres en rayons sombres, et l'endroit où Roland choisit finalement de s'arrêter ressemblait plus à une église qu'à une clairière. Il avait parcouru approximativement 200 pas depuis la route, en direction de l'ouest. Il déposa Jake et scruta les alentours. Il vit 2 boîtes de bière rouillées et quelques douilles vides, sans doute laissées par des chasseurs. Il les jeta plus loin dans les bois pour que les lieux soient propres. Puis il baissa les yeux vers Jake, essuyant ses larmes pour le voir aussi clairement que possible. Le visage de l'enfant était aussi propre que la clairière même. Othée y avait veillé. Mais l'un des yeux de Jake restait ouvert, donnant au garçon un air taquin et maléfique que Roland ne put tolérer. Du doigt, il lui referma la paupière. Et lorsqu'elle se rouvrit, comme poussée par un ressort, comme un store capricieux, voilà l'image qui lui vint. Il lécha la partie charnue de son pouce et le passa de nouveau sur la paupière pour la lisser. Cette fois, elle demeura close. Il y avait des traces de sang et de terre sur la chemise de Jake. Roland la lui retira, puis ôta sa propre chemise et l'enfila sur le corps du garçon en le manipulant comme une poupée. La chemise lui arrivait presque aux genoux, mais Roland ne tenta pas de la rentrer dans le pantalon de Jake. Portée ainsi, elle dissimulait les taches de sang à l'entrejambe. Othée observa toute la scène, ses yeux cerclés d'or brillant de larmes. Roland s'attendait à trouver un sol mou sous l'épais tapis d'aiguilles de pin, et il l'était. Tandis qu'il creusait la tombe de Jake, il se fit une frayeur en entendant un bruit de moteur en provenance de la route. D'autres chariots à moteur étaient passés depuis qu'il avait amené Jake dans les bois, mais il reconnut les ratés dissonants de celui-ci. L'homme à la camionnette bleue était de retour. Roland n'était pas absolument certain qu'il reviendrait. « Reste ici, » dit-il au bafouilleux. « Garde ton maître. » Mais c'était incorrect. « Reste et garde ton ami. » Il n'aurait pas été exceptionnel pour Othée de répéter cet ordre. « Reste. » Voilà le mieux qu'il aurait pu faire. À voix basse, en imitant le pistolero, mais cette fois-ci, il ne dit rien. Roland le regarda s'allonger près de la tête de Jake et gober une mouche qui s'apprêtait à se poser sur le nez du jeune garçon. Satisfait, Roland hocha la tête, puis repartit en direction de la route.